Musique, c'est un extrait de l'opus 48 du Requiem de Forêt.
Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Maxime Dahl.
Dans un certain nombre de diocèses, en raison de la pénurie de prêtres et de l'insuffisance numérique des diacres, l'accompagnement des funérailles, accueil et célébration, est souvent confié à des fidèles non ordonnés, choisis et missionnés. Alors aujourd'hui, dans Ecclesia Magazine, à l'occasion de ce jour des défunts, nous allons nous interroger sur ce temps des funérailles, un moment d'évangélisation avec un verbe approprié. Nous allons en parler aujourd'hui avec Didier Mélière, auteur de Homélie et prise de parole publique aux éditions Salvator. Didier Mélière, bonjour.
Bonjour Maxime.
Merci de revenir sur notre antenne pour parler effectivement de ce sujet intéressant et passionnant qui est finalement l'évangélisation ultime, c'est-à-dire aux alentours, aux abords justement de ce temps de funérailles, à la fois surtout auprès des familles qui vivent un deuil.
Ultime, je ne suis pas certain.
Oui.
C'est une évangélisation qui rejoint tout le monde à des moments très différents de la vie. Parce que s'il y a une chose qui est assez courante dans notre vie, c'est d'être confronté à la mort de proche. Mmh. Or, vous savez, la mort de proche, c'est le moment principal où chacun réfléchit à son avenir. Je veux dire non pas l'avenir immédiat, mais le vrai avenir, l'avenir au-delà. Mmh. Et ceci depuis toujours. Je ne sais pas si vous avez lu le premier livre qui a été écrit au monde, l'épopée de Gilgamesh, premier ou un des premiers. C'est un livre absolument passionnant. Un livre qui était très répandu au Moyen-Orient il y a 4500 ans. On en a retrouvé en Syrie, en Irak, en Turquie, un peu partout. C'est un livre important. Que racontait ce livre? Il racontait qu'un homme, Gilgamesh, perd un jour un de ses amis qu'il aimait profondément. Enkidu. Il perd Enkidu. C'est la rupture, c'est la déchirure, c'est la détresse. Il crie sa détresse. C'est le premier cri de détresse devant la mort dans l'humanité. Et que fait-il? Il part à ce moment-là à la recherche de l'explication et peut-être du secret de l'éternité. Alors il y a bien une tenancière de bistrot qui l'arrête et qui lui dit « Mais mon pauvre Gilgamesh, écoute, non, les dieux nous ont tout donné, sauf l'éternité, ils se la sont gardée pour eux. » Écoute, regarde plutôt le bonheur sur terre. Regarde la femme qui est à tes côtés. Regarde la main de l'enfant qui s'est posée dans ta main et sois heureux ici. Et pourtant, Gilgamesh s'en va. Voilà. Donc, la mort, c'est l'occasion pour chacun de réfléchir à quelque chose auquel il ne réfléchit pratiquement jamais, c'est-à-dire l'au-delà. Et puis, deuxième raison, le Christ, il nous donne le secret de la vie, le royaume de Dieu. Vous savez, dans la deuxième épître d'aujourd'hui, un homme découvre dans un champ un trésor. Ce champ ne lui appartient pas. Dans sa joie d'avoir découvert ce trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Voilà. Le Christ nous révèle le secret de la vie qui est le royaume de Dieu. Je ne vais pas discuter du royaume de Dieu ici. On l'a fait beaucoup déjà ce matin, et notamment dans l'émission précédente. La troisième raison, c'est que beaucoup de choses ont changé dans nos pratiques. Beaucoup. Il y a quatre choses qui ont diminué et il y a une chose qui est constante. Qu'est-ce qui a diminué? Le nombre de chrétiens. Je ne vais pas continuer là-dessus. Le nombre de prêtres. Dramatique. La fréquentation des messes. 96% des chrétiens fréquentent régulièrement la messe. 96%, pardon, ne fréquentent plus.
Ne fréquentent plus.
Oui, la messe.
Oui.
Enfin, ce qui a diminué et ce qui diminue actuellement, c'est le pourcentage de funérailles qui passent par l'Église. Un petit peu plus d'un tiers, seulement. Mais il y a une chose qui est constante. Quand il y a une célébration pour des funérailles, tout le monde y vient.
Oui.
Tout le monde y vient, et là-dedans on trouve des chrétiens formés, engagés. Des chrétiens de tradition sociale qui ne savent pas grand-chose. Des personnes en recherche, notamment des jeunes. Et on trouve des personnes ayant la foi athée, je dis bien la foi athée, car l'athéisme, pour beaucoup, c'est une foi, tantôt des libéraux, tantôt des militants, qui pensent que notre foi chrétienne est un obscurantisme nuisible pour l'humanité. On trouve tous ces gens-là. Et c'est vrai à la campagne, mais c'est vrai en ville, où on voit souvent, beaucoup de mes amis francs-maçons vont à ces célébrations chrétiennes. C'est donc une occasion exceptionnelle et je pense un peu sous-estimée dans l'Église.
Alors c'est donc une occasion d'évangélisation, on va en parler justement, de cette évangélisation qui se passe de fait par la parole, par le verbe, par ce que l'on peut dire. Donc j'imagine aussi une parole qui doit être aussi appropriée à toute cette assemblée bigarrée, en quelque sorte, qui n'attend pas forcément la même chose, que ce soit l'athée ou le chrétien convaincu. Et c'est vrai que traditionnellement, ce temps des funérailles, c'était le prêtre qui accompagnait ses familles et surtout qui, dans le cadre de ses funérailles, c'est lui qui disait l'homélie, qui disait ces mots, peut-être décisifs aussi sur l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, c'est ce que le constat que vous faites aussi dans votre livre, c'est que finalement, il n'y a plus assez de prêtres tout simplement pour assurer ce temps d'accompagnement.
C'est vrai. Et donc, de plus en plus, c'est confié à des laïcs. Oui. Alors, quelles sont les missions de l'accompagnateur? Il y a deux missions, c'est l'accueil et la cérémonie. Alors, l'accueil, c'est un peu le chemin d'Emmaüs. Vous savez, cet opéra en cinq actes. Un, le Christ interroge. Que disiez-vous? Pourquoi êtes-vous si triste? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il écoute. Deux, Il explique depuis les fondements, depuis l'origine des Écritures. Trois, il donne une empathie, une chaleur. Et quand, après un petit peu de temps de marche, le soir tombe et qu'il dit « je vais continuer » et que les autres vont s'arrêter, ils disent « non, reste avec nous, Seigneur, la chaleur ». Quatre, l'Eucharistie. Cinq, la mission. Aussitôt, tout joyeux, ils repartent annoncer ce qu'ils ont découvert. Voilà. Donc l'accueil, c'est ça. Écouter, consoler, mais on va y revenir un peu différent des manières humaines. L'accompagnateur n'est pas un mouchoir. Bon. Il doit expliquer et il doit aider. On viendra sur les détails après. Et ensuite, la cérémonie. Il accompagne une cérémonie qui se passe en quatre temps et il en donne le sens. Un, l'accueil. Deux, la liturgie de la parole, 3, la prière, et 4, l'adieu.
Lydie Mélière, est-ce que les laïcs, justement, qui sont en charge aujourd'hui de cet accompagnement dans le cadre de ces funérailles, sont bien formés? Est-ce que l'Église, finalement, a fait l'effort nécessaire, là aussi, pour proposer à ces gens, à ces volontaires, une formation convenable, là aussi, pour avoir la parole juste?
C'est très variable de diocèse en diocèse. Ouais. Il y a des diocèses où c'est remarquable. Il y en a d'autres où ça laisse plus qu'à désirer. Parce que cette formation, attention, elle doit être quadruple. Premièrement, psychologique comportementale. Si vraiment il y a un moment où on n'a pas le droit à l'erreur au point de vue du comportement, c'est lors de ces cérémonies-là. Oui. Ça serait dramatique. Deuxièmement, elle doit être, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, théologique, mais c'est la théologie de base, catéchétique, voilà. Il faut que les accompagnateurs comprennent en profondeur la richesse de ces textes et le sens profond de ces textes. Ces textes qui ont parfois deux sens, vous le savez, un sens immédiat et un sens allégorique. Bien. Troisièmement, il faut qu'ils aient des connaissances liturgiques. Alors ça, généralement, les diocèses donnent un petit dossier qui est assez bien constitué sur les éléments de la liturgie, les fautes à ne pas faire. Et puis quatrièmement, il faut qu'ils aient des talents de communication. La communication, et c'est l'objet de mon livre que vous avez cité en introduction, dans ce cas-là, c'est à la fois la structuration du commentaire et l'expression orale adaptée. La structuration du commentaire pour qu'il soit clair, non seulement qu'on les entende, mais qu'on comprenne et qu'on mémorise. Et l'expression orale adaptée, c'est-à-dire une attitude qui va être dans la gravité et la tristesse au départ pour arriver à la joie de Dieu, à la fin. La voix qui doit être audible tout le temps, mais aussi les silences. Les silences parce que les cerveaux, mal préparés à notre conviction, ont du mal à suivre parfois. Et donc, il faut utiliser 6 degrés de silence. On y reviendra après si vous le voulez, mais c'est essentiel parce que quand vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, 1, il analyse. 2, il formule des hypothèses d'explication. Et 3, il décide d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc, Il faut du temps pour ça. Si vous allez trop vite, bien sûr, tout ça, ça va passer dans le fil. Ensuite, il y a les regards et ensuite, il y a le visage.
Alors, dit Emilia, c'est vrai qu'en vous entendant, il s'agit d'une formation presque complète et totale. Et j'imagine que pour certains auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ils doivent se dire j'en serais bien incapable. Donc, je laisserai ça peut-être à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que ça demande, en vous entendant, une préparation quand même toute particulière.
Écoutez, la formation comportementale psychologique, je dirais, ça touche le cœur du chrétien.
Oui.
Les connaissances doctrinales, c'est élémentaire. Si vous êtes nourri de l'Évangile, voilà. Les connaissances liturgiques, c'est facile s'il faut suivre la feuille diocésaine. Et puis surtout, il ne faut pas que l'accompagnateur se présente en curé.
Hein. Oui.
Il n'est pas curé. Il est délégué par le curé. Et il est représentant d'une communauté. Une communauté qui, en principe, devrait être une communauté chaleureuse, une communauté d'amour, comme on en trouve ailleurs, notamment chez les évangéliques. Et puis, la communication. Alors, la communication, c'est plus difficile.
C'est ça.
Et là, il y a deux ressources possibles. Soit les ateliers. Et je recommande vivement le SOH, le service d'optimisation des homélies, que j'ai fondé il y a une douzaine d'années et auquel je n'appartiens plus. Et je conseille donc, si vous avez besoin, allez consulter le site sohcato.org. sohcato.org. Il n'est pas au point, il n'est pas à jour, mais bon, c'est toujours le problème des bénévolats. Et puis le deuxième moyen, c'est de faire les exercices qui sont dans mon livre. Parce que ces exercices, vous pouvez les faire seul, ou vous pouvez les faire avec votre épouse, ou avec un enfant, ou avec quelqu'un qui vous accompagne, un complice qui vous accompagne. Et c'est très facile. Donc, il n'y a pas de difficulté insurmontable.
Donc, en soi, tout le monde peut éventuellement faire cet exercice.
C'est à la portée de tout le monde.
C'est à la portée de tout le monde.
Et rappelons-nous que Démosthène était semi-bègue, qu'il avait beaucoup de mal à parler, et qu'il s'est exercé, et que c'est devenu un des plus grands orateurs de l'Antiquité grecque.
Didier Mélière, est-ce que vous qui avez fait beaucoup d'accompagnement, justement, on va en parler, est-ce que les familles qui participent à cette cérémonie de funérailles, qui sont donc très diverses, pas forcément croyantes, est-ce que là aussi, elles ne peuvent pas avoir l'impression que finalement, cette cérémonie de funérailles organisée par une équipe de laïcs, elle peut être perçue comme une cérémonie un petit peu au rabais, en se disant, il n'y a pas de prêtre, donc ça n'a pas forcément la même portée, etc. Parce que c'est vrai que, paradoxalement, cette figure du prêtre et du clerc, dans ces temps de funérailles, et comme pour le baptême par exemple, est importante même pour des gens qui ne sont pas forcément croyants.
Bien sûr qu'on regrette toujours l'absence de prêtre. Mais, vous savez, entre un prêtre qui est suroccupé et qui n'a pas le temps de rentrer dans les détails, il y a un accompagnateur qui peut réellement prendre le temps de bien écouter et de transmettre, je dirais, l'amour chrétien, et qui sait s'adapter à chaque configuration familiale, parce qu'on voit de tout. Vous savez, il y a la grand-mère qui a 93 ans, qui perdait la tête, qui souffrait, qui attendait la mort. Bon, et puis il y a à côté la famille qui a perdu un enfant de 3 ans d'un cancer, et c'est quelque chose d'insupportable. Et puis, il y a tous ces contextes familiaux extrêmement difficiles. Avec, vous savez, quand un président de la République est enterré, qui a à la fois sa femme et sa maîtresse, ces situations, on les retrouve extrêmement souvent.
Oui.
Et puis, il y a les couples homosexuels, et puis il y a les suicides. Il y a les suicides. Bon, quel échec pour tout le monde. Le suicide, c'est pas seulement l'échec de celui qui s'est suicidé, c'est l'échec aussi de l'entourage. Bon, donc le laïc bénévole, il a le temps et il faut du temps. Il a le temps, il va creuser, il va approfondir et donc il sera peut-être plus présent que le prêtre suroccupé.
Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, le plus dans tous les accompagnements que vous avez pu faire, justement, vous évoquiez...
Je vous arrête, j'ai jamais fait l'accompagnement personnellement.
Oui.
J'ai coordonné le service d'optimisation des homélies, et le service d'optimisation des homélies, ça s'adresse à l'état de choses, et notamment aux accompagnateurs de funérailles. Donc, personnellement, je n'ai pas accompagné d'enterrement.
Alors justement, pour préciser les choses, justement, accompagner des gens au seuil de la mort, vous l'avez fait en tant que chirurgien, justement,
dans le
cadre de chirurgie vasculaire, et c'est en ça que c'est intéressant aussi, c'est que vous avez été confronté finalement à ce temps ultime, à la mort, d'une manière très récurrente.
Oui, alors très souvent, et si vous voulez, ça a commencé... Bon, je suis très vieux et j'ai été appelé pendant la guerre d'Algérie. Donc, et ça a commencé donc là. Et j'avais très peu de temps parce que dans l'antenne chirurgicale où j'étais, il y avait des jours où il y avait jusqu'à une vingtaine d'opérations. Donc c'était 2 heures de sommeil, point barre. Et puis ensuite, on recommence. Bien. Alors, avant la mort, vous rencontrez 4 attitudes.
Oui.
Il y a ceux qui n'y pensent pas. Et mon copain Blaise Pascal disait, il va mourir dans un instant et que fait-il maintenant? Il joue à la balle. Il y a ceux qui ont l'idée que la mort va être médicalisée, qu'il va y avoir des antalgiques, et finalement leur souhait c'est la mort brutale. Il y a ceux qui ont un souhait d'euthanasie, et cette proportion augmente en France.
Oui.
Et enfin, il y a 30% des Français, c'est un sondage de 2017, qui croient qu'il y a quelque chose après la mort. Ça c'est l'attitude avant. Mais quand la mort s'approche, alors je ne vous ferai pas tous les tableaux terribles, dramatiques que j'ai côtoyés, mais qui sont parfois extrêmement douloureux. Eh bien là, j'ai rencontré 5 attitudes. La première, c'est le soulagement. Enfin, mes douleurs
vont cesser.
À la fois physiques et morales, car vous savez, se voir partir en morceaux, si j'ose dire, soit du corps, soit du cerveau, ou bien tous les problèmes affectifs qu'il y a dans les familles divisées, les enfants qui ne viennent pas, etc. C'est des souffrances enfin soulagées. C'était la position de Socrate. Il aurait mieux fallu qu'ils ne viennent pas au monde.
Oui.
Bon. Attitude de soulagement. Attitude de déni total. Et c'est dans ces cas-là qu'ensuite on entend la famille qui dit « Mais on ne sait pas parler ». Mais il nous a rien transmis. Mais on ne lui a pas dit au revoir, etc.
Assez courante, finalement,
Attitude. Et puis, il y a des cas de stoïcisme et de dignité.
Oui.
J'en ai rencontré beaucoup. Vous savez, j'ai fait ce que j'ai pu de ma vie. J'ai joué dans le concert de ce monde, comme dit Rabindranath Tagore, un autre de mes copains. J'ai joué de ma flûte le mieux possible, le mieux que j'ai pu. Voilà, stoïcisme et dignité. Et puis, 4e attitude, il y a la terreur absolue.
Oui.
Vous vous rappelez la petite sœur du dialogue des Carmélites, hein, qui est terrorisée par la mort. Ça, alors là, c'est très, très fréquent. Et puis, il y a la confiance. La confiance, cette mort, c'est la porte vers Dieu. Dieu est amour. Dieu pardonne. Et Dieu va m'offrir un bonheur éternel. Et dans ce bonheur, je vais rejoindre toute ma grande famille. Personnellement, je suis convaincu que je vais rejoindre Isabelle, ma première épouse, mais aussi ma sœur et mes parents. Voilà, donc 5 attitudes. Alors, il n'y a pas de réponse au comment dialoguer. C'est d'abord écouter. Écouter, et puis, à un moment, dire sa propre conviction. En disant bien, voilà, c'est ma conviction, mais je comprends très bien que vous en ayez une autre. Simplement, j'écoute votre conviction, écoutez la mienne. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Et généralement, ça entraîne beaucoup d'apaisement.
Et puis j'imagine aussi que le verbe vient plus facilement avec les années, avec l'expérience, tout simplement, au fil des accompagnements au seuil de la mort qu'on a pu faire aussi.
Alors le verbe... Oui, à condition que ce ne soit pas un cours. Hein.
Oui.
Voilà. C'est un témoignage de vie, ouais. C'est un témoignage de ce que moi, je crois au fond de moi-même et que je vous dis à vous, au fond de vous-même. Donc, il faut commencer par écouter. C'est pour ça que j'ai pris Emmaüs comme exemple au départ tout à l'heure. Il faut commencer par écouter. Quelle est votre conviction? Moi, je vais vous dire ma conviction. Dans le respect de votre conviction, je ne suis pas supérieur à vous.
Oui.
Vous savez, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je ne le crois pas, mais peut-être que je me trompe.
Alors j'aimerais peut-être revenir sur les 6 degrés de silence que vous évoquiez il y a quelques instants. Bon, le silence, c'est le silence, hein, on sait à peu près ce que c'est. 6 degrés de silence, il y en a 6.
6.
Oui.
D'abord, pour qu'on comprenne bien, et surtout dans une église avec les échos multiples, ou bien quand c'est un prêtre qui a un accent différent parce qu'il a été éduqué dans une autre langue. Il faut du temps pour comprendre les mots. Et donc, il faut syllabiser. C'est un mot scientifique qui exprime que, entre chaque syllabe, il faut laisser un micro-silence, degré 1. Ensuite, entre chaque mot, il va falloir laisser un autre micro-silence un peu plus long, c'est le degré 2. Ensuite, vous voyez bien, quand je parle, il y a des groupes de mots,
oui.
Puis je me tais, puis je repars sur un autre groupe de mots. C'est le degré 3. Ensuite, pour qu'on comprenne complètement, il faut qu'entre chaque phrase, je respecte un silence un peu plus long. C'est le degré 4. Mais ensuite, quand je vais passer, je dirais par exemple, de la valorisation de ce mort à l'explication du royaume de Dieu, ce trésor dont je parlais tout à l'heure, là, il va falloir un silence de degré 5. J'ai parlé de ceci, je vais parler de cela. Donc, je sépare bien les deux parties. Comme ça, le cerveau suit. Car de la parole au cerveau, c'est compliqué, il y a plein de choses, c'est un phénomène actif, ça.
Oui, bien sûr.
Écouter, comprendre, mémoriser et ensuite se positionner. Et puis, si je pose une question, est-ce que Dieu ne nous a pas donné un exemple d'amour extrêmement profond en se sacrifiant sur la croix? Si j'enchaîne, ce n'est pas une question. Il faut donc un silence de degré 6 pour que les cerveaux aient le temps de répondre.
Le temps de répondre et d'assimiler. Alors c'est vrai que, dit Méliard, dans le cadre de ces cérémonies de funérailles, j'imagine qu'il faut aussi alterner entre finalement une certaine pudeur, une certaine pudeur vis-à-vis de ce temps très fort en l'occurrence, mais aussi un message où l'on peut ressentir et accueillir aussi l'espérance chrétienne, l'espérance de la résurrection. Il faut peut-être alterner aussi entre ces deux temps, ces deux humeurs d'une certaine manière qu'on essaie de diffuser.
Oui, c'est le résultat, ça, de l'accueil, n'est-ce pas? Premier temps, j'écoute et je donne mon empathie. Et on va valoriser le mort, valoriser la famille. On va montrer l'exemplarité, ce qui n'est pas toujours facile, hein, oui. Mais trouver dans la vie de ce salopard deux ou trois trucs exemplaires qu'il y a à suivre. À la fois, c'est important pour la famille parce que, bon, ça change un petit peu l'image et le souvenir. Mais en même temps, c'est un exemple qu'on va suivre. Ah oui. Mon père, qui était pourtant pas parfait, il faisait ça, et je vais essayer de faire ça aussi.
C'est important, justement, de singulariser l'homélie, c'est même fondamental.
Ah, c'est essentiel. Oui. Attendez, le contact, le dialogue chrétien, c'est vraiment pas un schéma méthodique qu'on plaque. Et c'est pour ça, souvent, que l'accompagnateur laïque est parfois mieux qu'un prêtre qui n'a pas le temps. Parce que le prêtre, il a tendance à réciter son truc. Il s'est fait son petit schéma d'exposé et voilà, d'obsèque en obsèque, ça va être à peu près les mêmes. Mais non, le laïc, il a le temps.
Alors, 10 milliards, c'est vrai que notre émission touche déjà à sa fin. Peut-être un mot aussi sur ce discours, sur la mort qui de fait améliore, on imagine aussi nos vies et notre perception des choses. Vous avez le sentiment qu'on peut faire davantage encore dans les paroisses aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait. Parce que si vous voulez, pour beaucoup de chrétiens, où est-ce qu'elle est passée, notre certitude dans la résurrection? Où est-il passé l'enthousiasme de saint Ignace d'Antioche, vous savez, qui est condamné à mort, qui doit aller à Rome, mais c'est très long le chemin vers Rome, et il va passer de ville en ville où il va rencontrer des communautés chrétiennes, et il les supplie surtout, n'empêchez pas que je sois mangé par les lions, parce que je vais enfin rencontrer mon Seigneur. Voilà, où s'est passé tout ça? Alors je pense que dans les paroisses, il faudrait davantage insister sur la mort, porte de la vie vers Dieu. Et que toute notre vie devrait être davantage orientée vers cette préparation de la mort. Et enfin, je pense que la communauté paroissiale devrait davantage accompagner ses morts. Et très souvent, c'est délégué, c'est confié à d'autres. Mais que la communauté ne se sent pas investie dans cet accompagnement des morts et des familles. Donc je pense que là, il faudrait changer. Je voudrais signaler à ce propos que j'ai un blog qui s'appelle « Clé pour Homélie Heureuse ». Ça s'écrit en direct, sans point, sans espace, « Clé pour Homélie Heureuse ». Il est en composition. Et si vous voulez aller sur ce blog, vous y trouverez un certain nombre de textes. Alors ce blog est en composition parce que j'étais orienté tout à fait pour le moment sur l'écriture de ce livre qui vient de sortir. Et donc pour le moment, ce blog se remplit. Mais voilà, si on peut en faire un lieu de dialogue, vous pouvez m'écrire et les contributions les plus importantes seront mises là avec les réponses.
Clé pour homélie heureuse, donc.
Clé pour homélie heureuse.
Et puis, on peut bien sûr se procurer votre livre qui vient de paraître aux éditions Salvador, homélie et prise de parole publique, 30 exercices pour se perfectionner. C'est vrai que c'est un guide précieux dans le sens où c'est aussi la mise en action, hein, c'est l'aspect concret aussi de cette parole. On n'est pas que sur le théorique, c'est ça qui est important.
Voilà, ce sont des exercices et il y en a 320 pages.
320 pages. Et puis c'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs, on parle là en l'occurrence des funérailles, nous fêtons aujourd'hui le jour des défunts, et d'ailleurs nous allons sans doute, pour la plupart, aller dans les cimetières, sur les tombes de nos pères, de nos ancêtres. Et c'est vrai qu'il y a finalement tous les temps de la vie qui sont propices à cette évangélisation, que ce soit pour le mariage, pour le baptême finalement. C'est là où on est attendu, Didier Méliard.
Tout à fait. Ce sont des moments exceptionnels et peut-être plus exceptionnels que les messes dominicales, ouais, qui sont très très importantes, bien sûr, parce que c'est le lieu où la population chrétienne, le peuple chrétien se forme et approfondit sa foi, puisqu'il y a peu d'autres occasions hors de ça. Mais il est vrai que ces occasions que vous avez citées réunissent des gens tellement disparates,
c'est ça.
Notamment toutes ces personnes en recherche et ces athées.
Eh bien, merci beaucoup Didier Méliard. Le titre de votre livre, Homélie et prise de parole publique, aux éditions Salvator. Merci à vous.
Merci Maxime.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Et on se retrouve lundi à partir de 10h30 dans Ecclesia Magazine pour un nouveau numéro.
La bonne étoile, Ombline de German.
Cette semaine, c'est Juliette Moulas, cofondatrice de Terroir Mon Amour, qui sera notre bonne étoile. Elle nous racontera l'engagement de son entreprise pour promouvoir et protéger les produits du terroir français, depuis leurs producteurs jusqu'à nos assiettes. La bonne étoile avec Juliette Moulas, c'est ce vendredi à 19h45 sur Radio Notre-Dame.
Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Durant la Grande Guerre, plus de 30 000 prêtres ou religieux français se sont illustrés par leur dévouement et leur courage. Enquête à l'occasion du centenaire de la signature de l'armistice. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
Écoute dans la nuit, Jean-Marie Marseille.
Du mardi au vendredi, je vous emmène chaque soir, pendant 2 heures, découvrir des témoins de l'Évangile. Ils seront là comme des astres qui brilleront pour éclairer nos nuits. Alors laissons l'Esprit-Saint chasser les nuages pour contempler ces étoiles. Retrouvez-moi du mardi au vendredi à 22h sur Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Il est 11h dans quelques instants sur Radio Notre-Dame. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et c'est Alban qui est dans le studio.
Bonjour,
bonjour Alban. Qui est partout, sur toutes les animations, sur toutes les tranches. Il est magnifique.
C'est vrai que je démarre à 6h du matin. Si vous voulez écouter mon premier flash, Maxime, rendez-vous lundi.
Et dans quelques instants, on va entendre votre dernier flash, Alban, de 11h, avec la brève insolite qu'on attend avec impatience. 11h02, 30 secondes, a priori.
Précisément.
Voilà. Donc, et juste après, ce sera en direct l'Allée du Prince avec Yves Delafoy et ses invités. On parle théâtre aujourd'hui, mais tout de suite, Alban, il est 11h, les informations, on vous écoute.